Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
L'interview du jour.
Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez Ardiwa sur le 107.5 FM et sur le www.rdwa.fr. Je me suis rendue au théâtre de Die afin de m'entretenir avec Francis Huster. Nous ne serons pas seuls pendant cette interview. C'est une petite conférence de presse avec moi dans les loges Yves, le président, une journaliste du Dauphiné Libéré et une journaliste du journal du Die.
Ok, c'est bon. Eh bien, c'est parti.
Moi, je voulais savoir ce qui vous fascinait chez Albert Camus, si c'était son engagement, son style, son personnage.
Écoute, est-ce que sérieusement tu vas regarder ce soir? Parce que comme je vais en parler pendant 2 heures, probablement qu'il y a beaucoup de réponses où tu pourras toi-même considérer que ce que je dis, c'est comme une réponse aux questions. Là, je vais te répondre brièvement. Ce qui est fascinant chez Albert Camus, c'est qu'il y a des artistes, que ce soit des peintres, des écrivains, des sculpteurs, je pense à Rodin par exemple, ou à Picasso comme peintre, ou des musiciens, je pense par exemple à Gershwin ou Rachmaninoff, où leur vie privée est à la hauteur de leur vie artistique. C'est-à-dire que ce qu'ils ont vécu dans leur vie privée est tellement hors du commun que c'est fascinant de voir comment quelqu'un qui a eu une telle vie a pu laisser une œuvre qui, en fait, n'est pas seulement le miroir de sa vie, Picasso a quand même traversé 2 guerres mondiales, plus la guerre d'Espagne. Donc, on peut penser que ce qu'il a fait dans son œuvre, ou Rachmaninoff pareil, ou Gershwin, on peut penser que ce qu'ils ont traversé dans leur vie a enfanté une œuvre aussi contradictoire que celle qu'ils ont faite. Or, en fait, on s'aperçoit que la vie de ces gens-là nous est comme projetée en avant pour nous parler de la nôtre aujourd'hui, alors que leur œuvre est une œuvre cimentée et qui reste comme une empreinte de leur époque. Ça veut dire que Camus, ce qu'il a fait de sa vie, ça nous convainc qu'aujourd'hui, si Camus était là, le monde entier tremblerait. Ça veut dire que Camus ou Picasso ne laisseraient pas passer ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire que tu les entendrais à la radio, à la télé, dans les journaux, prendre position. Ça veut dire que la bande de lâches et de traîtres d'aujourd'hui, ils n'en feraient pas partie. Ce qui est inadmissible dans ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, c'est qu'on n'est pas de Camus ou de Picasso pour prendre parti. Et donc, je veux dire, voir ce qui se passe dans les pays auxquels on pense tous, et voir ce qui s'y passe, et de se dire qu'il n'y a personne dans le monde pour aller à 20h30 au journal télévisé et mettre à feu et à sang les médias pour leur complicité, leur irresponsabilité qui va entraîner une 3e guerre mondiale. Voilà, donc si tu veux, la vie de Camus, de Picasso, de Rachmaninoff, de Beethoven, de Hugo. Est-ce que tu crois que si un Victor Hugo existait aujourd'hui, il laisserait passer ce qui se passe dans le monde? Certainement pas. Ce qui est fascinant, c'est de penser que ces êtres-là, et dans leur vie, et dans leur œuvre, ont donné non pas le reflet de ce qu'ils étaient, mais ont donné une œuvre pour l'éternité et probablement aussi un exemple humain qui, de toute façon, un jour ou l'autre, va entraîner une révolte. Je veux dire, la religion chrétienne, la religion juive, la religion musulmane, je n'imagine pas que les 3 hommes qui sont à la naissance de ces religions toléreraient ce qui se passe aujourd'hui.
Moi, j'ai envie de commencer par vous dire bonsoir, Francis Huster.
Ah, tu veux me dire bonsoir? Moi,
ouais.
Je dis bonjour.
Alors, bonjour Francis Huster.
Bonjour, mon bonsoir.
Il est tard là, non?
Non, c'est pas ça, c'est que je trouve que la langue anglaise est nettement plus intelligente que la langue française de ce point de vue-là. On dit good morning, good afternoon, Oui, good evening. Et je trouve que le mot bonjour, c'est quelque chose qui se lève. Et moi, j'ai jamais considéré que le soir, c'était fait pour se coucher. C'est le contraire. Moi, je travaille tous les soirs et toutes les nuits.
Je vais rebondir sur ce que vous avez dit.
Oui.
Les combats, ce qui se passe dans le monde, j'aimerais bien deux, trois précisions. Quelles sont les choses en particulier qui vous révoltent ? Parce que ce qui se passe dans le monde, il y a plein de belles choses dans le monde et plein d'autres. Qu'est-ce qui vous révolte en particulier ?
Un artiste, puisque moi je ne suis pas un scientifique, mais je fais partie du monde des arts. Je dis des arts, hein, plus que de l'art. L'art, c'est ce qu'on... C'est une chose qui englobe la totalité des arts, mais l'art n'existe pas. Ce sont les arts qui existent. Je pense que quand on fait partie du monde des arts, ce monde n'existe que parce que c'est une révolte et un combat par rapport à la réalité de la vie. Si la vie, depuis le début, avait été humaine, belle, juste, il n'y aurait jamais eu d'art. Qu'est-ce que c'est que l'art ? Le sport, c'est de dépasser les limites humaines du corps. Le sport existe parce qu'à chaque fois, on va encore plus loin et plus haut. Si en athlétisme, on courait le 100 mètres comme il y a 50 ans, il n'y aurait pas d'athlétisme. Il y a de l'athlétisme pour qu'on aille encore plus haut et encore plus loin, pour qu'on joue au football encore plus vite, au tennis encore plus fort. Tout progresse dans le sport. Or, il se trouve que l'art, il est fait pour être une résistance à la médiocrité de la vie. Donc tout ce qui est médiocre dans la vie doit être combattu par l'art. Sinon, ce n'est pas de l'art. Sinon, c'est un reflet. Le reflet n'a rien à voir avec l'art. L'art, c'est une prise de position. Une photo, c'est quand on photographie quelque chose qui est scandaleux, ou scandaleusement beau, ou scandaleusement affreux. Mais tout ce qui est sur la ligne horizontale, c'est pas de l'art. L'horizon, c'est une ligne droite, c'est la seule ligne droite, elle est inaccessible. Plus tu t'approches, plus il s'en va. Ça n'a aucun intérêt. L'intérêt de l'art, c'est qu'il y ait des gens qui se disent artistes parce qu'ils dénoncent soit la beauté, soit la laideur. Donc, au jour d'aujourd'hui, en 2014, ce qui est dénonçable dans le monde, et tu le sais parfaitement, c'est ce qui est en train de se passer à tous les niveaux. Scientifiques, incapables de réussir à tuer la peste du sida, la peste Ebola, toutes les pestes. Politiques, tu sais très bien ce qui est en train de se passer. Quand on était dans les années 1930-1900, on a toujours eu l'impression que nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, nos parents étaient des crétins parfaits. Tout le monde se dit, mais comment vous avez pu laisser monter le nazisme? Comment vous avez pu laisser monter cette horreur qui a fait 57 millions de morts? T'es bien assise. 57 millions de morts. Est-ce que les gens s'en rappellent que la Deuxième Guerre mondiale a fait 57 millions de morts et qu'en plus elle était 20 ans après une Première Guerre mondiale qu'on avait déjà fait tuer 20. Donc ça veut dire que 70 millions d'êtres humains sont morts parce que les responsables du monde ont été incapables d'empêcher ça. Mais on est où là? Or, qu'est-ce qui se passe en 2014? La même chose?
Ils ont été incapables ou ils l'ont créé?
Ça, je te laisserai répondre, toi, à cette question-là. Je te laisserai répondre à cette question-là. Toi, ce qui est sûr et certain, c'est que moi, je n'admets pas que dans les livres d'histoire, on puisse mettre une seule ligne pour Roosevelt ou pour Staline, qui se sont déclarés les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, alors qu'ils en sont les responsables. Donc c'est très bien de passer pour celui qui a gagné la guerre, alors que c'est toi qui en porte la lourde responsabilité. Staline, en signant avec le pacte germano-soviétique, dont en tendant la main à Hitler et aux rachs nazis, en lui permettant d'entamer la Seconde Guerre mondiale, ce qu'il a lui-même déclaré, au Kremlin, lui, Staline, en 39, avant la guerre, en disant « je vais signer avec le Reich et donc il y aura la guerre ». Il le dit. Donc c'est un assassin ou pas? Et puis Roosevelt, qui pendant des années de 1930, après le seul président des États-Unis au monde élu plus de trois fois, et qui a le culot, dans les années 30 jusqu'en 40, de laisser le monde entier être empoisonné. Donc je veux dire, il porte pas une responsabilité. Mais enfin, on est où là? Donc on est en 2014. Et tous les artistes qui, dans les années 30, dans la peinture, dans la sculpture, au théâtre, en littérature, ont se sont révoltés et ont combattu. Il n'y a qu'à lire les pièces de théâtre de ces années-là, il n'y a qu'à lire les œuvres de ces années-là. Alors, qui l'a fait? Et aujourd'hui, en 2014, il se passe quoi? Alors, je veux dire, c'est magnifique, formidable de faire des films sublimes, Gravity, sur la guerre, sur Sandra Bullock dans l'espace, c'est magnifique, Interstellar, c'est magnifique, Pirates des Caraïbes, c'est un chef-d'œuvre, il va y en avoir encore une suite, c'est magnifique. Où est le film sur ce qui se passe dans le monde en 2014 et la responsabilité totale des maîtres du monde? Où est le film sur un président des États-Unis qui laisse se faire année après année ce qui se passe dans le monde? Le président des États-Unis jure sur la Bible. Il jure sur la Bible. Des chrétiens sont massacrés dans le monde. Des musulmans sont massacrés dans le monde. Des juifs sont massacrés dans le monde. Il a juré sur la Bible. Il se passe quoi? Mais il se passe quoi? Est-ce que tu crois une seule seconde que le prophète lui-même, Mahomet, Jésus-Christ lui-même, Moïse et les autres, est-ce que tu crois qu'aujourd'hui, ils regarderaient le journal télévisé sans réagir? Non, on est où, là? Voilà. Donc je pense que quand évoquer Albert Camus pour un acteur, ou évoquer Pablo Picasso pour un peintre, ou évoquer Beethoven, Rachmaninoff ou les autres, bah, c'est faire son métier. Sinon, je serais pas là.
Donc vous évoquez la révolte à travers les mots d'Albert Camus et les vôtres de mots. Est-ce que vous êtes militant ou est-ce que vous êtes engagé ailleurs que par votre art?
Mais ta question, elle est extrêmement intéressante. Est-ce que tu crois sérieusement que Roger Federer, qui vient de gagner la Coupe Davis, est-ce que tu crois sérieusement que Manodou, qui est un champion de natation absolument sublime, etc., que Loeb ou Hamilton, qui vient d'être champion du monde, est-ce que tu crois que leur devoir, c'est d'être militant? Ou est-ce que tu crois que leur devoir, qu'on soit artiste, sportif ou tout ce que tu veux, c'est pas de réussir au mieux dans ce dont tu... là où tu es capable de réussir, et à ce moment-là, d'avoir une position par rapport au monde entier en fonction de ce que tu représentes, pas d'être militant. Je veux dire, Marlon Brando, un des trois plus grands acteurs de l'histoire du cinéma et du théâtre, Marlon Brando, aux Oscars, il a refusé d'y aller, il a demandé à une Indienne d'aller chercher son Oscar. C'est une position totalement respectable, mais totalement stupide. Il aurait mieux valu faire un film avec Marlon Brando qui parle de ce combat qu'il entendait mener. Or, visiblement, c'est Dustin Hoffman qui a été extraordinaire au cinéma. Visiblement, c'est Clint Eastwood qui, tout d'un coup, fait des films. Alors, moi, je tire mon chapeau à Clint Eastwood, pas à Marlon Brando, pour ce cas précis. J'estime que les œuvres de Mozart sont 10 000 fois plus combattantes et militantes, parce que quand tu as entendu Mozart, tu deviens un être bon, tu deviens ouvert au monde, tu t'aperçois de ce que peut apporter la musique. Je veux dire, moi, les acteurs militants, les artistes militants, c'est pas ma cup of tea. C'est dans leur art qu'ils doivent militer. Pierre Céline a écrit des ordureries scandaleuses qui ont été d'ailleurs, Dieu merci, on peut lui tirer un coup de chapeau à sa veuve qui a tout fait pour que ces ordureries ne soient plus éditées. Elle a eu raison sur deux points. D'abord, premier point, parce que c'est criminel, ces textes sont criminels. Hein. C'est pas une plaisanterie ce que je dis. Je te dis que ces textes sont criminels.
Vous parlez des pamphlets.
Mais plus que les pamphlets. Mais enfin oui, tu lis des. Il y a des textes mais absolument criminels. Et dans son œuvre de génie d'écrivain, on peut le célébrer comme Wagner. Mais son militantisme personnel, il est horrible. Donc je préfère que les artistes soient militants dans leur œuvre artistique. Moi, je veux dire, Barack Obama interprétant le misanthrope, ça m'intéresse pas du tout. Et par contre, ce qui m'intéresse, c'est son inconséquence qui pèsera lourd dans l'histoire du monde.
Est-ce que vous pensez actuellement que les médias sont aussi la source de ce désordre moral, d'amener de l'huile sur le feu par la manipulation des informations qui leur parvient et de les redistribuer n'importe comment? L'exemple tout récent à propos des clowns agressifs qui apparemment causent beaucoup de problèmes dans le domaine des artistes de spectacle qui font du clown, et il y a eu des réactions justement contre les médias par rapport à cette manipulation de... des termes et des mots, du jeu des mots aussi, de détourner le sens des mots.
Mais tu as donné et la question et la réponse. Mais la télévision polonaise a passé des images des horreurs, des décapitations, des tueries de Daesh. Elle les a passées. Peux-tu me dire pourquoi la télévision française ne les a pas passées? Je les ai vues, ces images. Tu peux les voir sur Internet. C'est une horreur. Pourquoi la télévision française ne les passe pas? On te soutiendra que si les Français, qui probablement doivent être des débiles, il doit y avoir 70 millions de débiles en France, qui voient ces images, les Français, ils vont détester les musulmans. Ah bon? C'est-à-dire? Quel rapport un être humain qui est musulman, qui est un être humble, et qui fait son culte de la façon la plus normale, quel rapport a-t-il avec ces horreurs? Aucune. C'est pas parce que tout d'un coup il y aurait une terreur chrétienne dans un pays que des chrétiens fanatiques prendraient et tueraient et décapiteraient que les chrétiens du monde entier auraient un rapport. Il y a des Allemands qui étaient totalement contre le nazisme, qui ont été eux-mêmes martyrisés, massacrés. Je veux dire, ce n'est pas tout d'un coup, après la guerre en 1945, que des millions d'Allemands, tout d'un coup, ont dit « Enfin, le nazisme est fini !» Quelle justification on a à ne pas montrer ces images que j'ai vues? Et je peux te dire que quand tu vois ces images, tu t'aperçois de la culpabilité des responsables du monde qui voient ces images, qui sont parfaitement au courant, qui sont responsables de ces images, puisqu'ils n'ont rien fait depuis des années. C'est contre eux, certainement, que les gens se retourneraient. Alors quand, après la guerre de 40, on a eu des images de tout ce que les nazis ont fait en Allemagne, dans les camps de concentration et le reste, et que les gens ont dit « mais on n'était pas au courant ». Les gens, c'est-à-dire les gens du quotidien. Est-ce que tu penses une seconde que les responsables du monde n'étaient pas au courant dans les années 30? Mais ils étaient parfaitement au courant. Et on en a les preuves. Donc les dirigeants d'aujourd'hui sont parfaitement au courant. Donc on se retrouve dans une situation qui est une situation dans laquelle, justement, je ne pense pas qu'Albert Camus serait resté muet. Je me rappelle très bien d'Isabelle Adjani quand Salman Rushdie a été condamné à mort pour les ses versets. Isabelle Adjani a eu le courage au César de prendre son parti, mais qui d'autre l'a fait à part Isabelle? Tu vois, je me demande qu'est-ce qui se passerait si on demandait à Ribéry, à Zidane, à Benzema de venir sur un plateau de télévision et emblématique comme ils le sont, une magnifique sportive, de prendre position. Ils resteraient muets. Qui leur a demandé de le faire? Qui? Personne. On est où?
Est-ce que ça signifie que vous pensez que les artistes aujourd'hui ne remplissent pas leur rôle en faisant passer leurs idées, des idées percutantes et des idées de révolte par leur art? Est-ce que vous pensez que du coup l'art n'a plus de sens? Est-ce que c'est global ou est-ce que ça concerne seulement quelques personnes? Est-ce qu'il y a encore des artistes révoltés?
Il y a des artistes absolument sublimes et qui font des choses d'un courage extraordinaire et qui essayent par tous les moyens, dans les films, du point de vue musical, du point de vue danse, de tout, de se battre pour justement montrer que eux résistent, mais ils ne sont pas prix Nobel de littérature. Patrick Modiano est prix Nobel de littérature. Est-ce que Patrick Modiano a écrit une page entière, une lettre ouverte dans le Figaro pour dire ce qu'il pensait de la situation mondiale? Non. Est-ce qu'Albert Camus l'aurait fait? Oui. C'est toute la différence. Et moi, j'admire Modiano depuis très longtemps, sa droiture et sa rigueur et sa pureté d'écriture, comment se fait-il qu'en recevant le prix Nobel de littérature, Patrick Modiano, qui a trois particularités qui devraient le pousser à le faire, il est juif, il est français, il est prix Nobel de littérature. Je veux dire, pour trois raisons, il est particulièrement impliqué dans ce qui se passe dans le monde. Comment se fait-il que... Alors peut-être, je me trompe, peut-être qu'en recevant son prix Nobel, il dira peut-être tout haut à la face du monde dans son discours ce qu'Albert Camus aurait peut-être dit aujourd'hui. Ben, j'espère que Modiano le dira, mais je n'en suis pas sûr du tout à l'heure où je te parle. Or, c'est la seule façon qu'il se passe quelque chose. Il n'y a que deux hommes qui ont critiqué Barack Obama il y a deux ans. Il y en a un, Clint Eastwood aux États-Unis qui a mis une chaise vide. Tout le monde... Oh, Clint Eastwood, il exagère. Ah bon? Il exagère? Ben, je pense que des millions d'Américains aujourd'hui pensent peut-être la même chose que Clint Eastwood il y a X temps. Moi, je l'ai fait en France en disant comment se fait-il qu'il n'y ait plus de patron dans le monde. C'est la plus grande armée du monde, il ne bouge pas, il ne fait rien. Je ne pense pas que John Kennedy aurait laissé les choses aller jusque-là. Je ne le pense pas. Et d'ailleurs, je vais même te dire, je vais même plus loin, je suis persuadé que Richard Nixon non plus ou Reagan n'auraient pas laissé les choses aller jusque-là.
Ça semblerait dire que Barack Obama a un ennemi à combattre, ça serait le monde islamiste, djihadiste, qui s'est implanté au Moyen-Orient ou au Proche-Orient. Et vous pensez pas aussi que l'ennemi peut se trouver dans nos propres territoires par rapport à déstructurer une société qui allait bien jusqu'à présent et qui est en train de se désagréger, je dirais.
Ta question est... exactement la question que des millions de gens, des milliards même de gens se posent dans le monde. C'est la question principale. Si j'étais un homme politique, je t'y répondrais. Je suis un artiste, donc il y a une ligne rouge, si tu veux, à pas dépasser, pour que les artistes puissent continuer à être universels. C'est-à-dire que moi, quand je joue dans une salle de théâtre, je joue pour tout le monde. Je ne veux pas jouer que pour les gens qui sont de mon avis, ou qui pensent comme moi, ou qui sont comme moi. Et donc je pense qu'il faut rester universel. Ce que je sais simplement, c'est que c'est même pas une question de gravité, c'est une question de dignité. Trop de gens sont morts, des millions de gens sont morts pour une démocratie et une liberté et une dignité humaine, et... là, le moment est super grave. Donc, je ne sais pas qui va pouvoir faire basculer. Je sais que tout tient à si peu de choses. Qui aurait pu penser en 1914 qu'on était à deux doigts d'une telle boucherie scandaleuse, honteuse? Personne. Eh bien, j'ai très peur qu'on soit à deux doigts d'une autre et d'une troisième guerre mondiale. Et je ne sais pas d'où peut venir la sauvegarde. Moi, je veux encore croire que c'est par la force qu'on peut empêcher une guerre, et pas du tout par la faiblesse. Et donc, si notre monde à nous ne montre pas sa force, c'est fini. Et je me souviens très bien, quand on avait 24 heures, le feuilleton avec Kiefer Sutherland. Quand ce feuilleton a commencé, il y a une dizaine d'années, tout le monde s'est dit « Ah non, ça c'est bien du cinéma, regarde-moi ça ». Dans un épisode, il y avait une peste, ça ressemble beaucoup à Ebola d'aujourd'hui. Dans un épisode, il y avait un président américain qui était noir. C'est bien ce qui s'est passé. Et quand l'épisode a eu lieu, les gens disent « Oui, faut attendre, c'est pas demain la veille qu'il y aura un président noir aux États-Unis. » C'est ce qui s'est passé. Et si tu regardes bien beaucoup d'épisodes de cette série, t'as froid dans le dos. Parce que tu te dis que on est prêt de vivre ça. Et tu te dis « Mais c'est pas croyable. » Eh ben si, la fiction a dépassé la réalité, et la réalité va maintenant dépasser la fiction. D'où l'intérêt, si tu veux, humblement, hein, de notre côté, on n'est rien, nous. On est une pichenette. Mais tu vois que le Japon tremble encore, tu te dis, mais attends, si le Japon tremble encore plus que ça, il va encore y avoir d'autres centrales nucléaires qui vont exploser. On est où là? Ben, on est dans le monde dans lequel on vit, et ça paraît complètement fou, mais c'est la réalité.
Ce que vous dénoncez davantage, c'est plus une absurdité globale ou d'un ennemi qu'on ne nomme pas.
C'est qu'en 2014, le monde, c'est-à-dire la totalité du monde, les milliards de gens, sont sur un incendie qui s'est déclaré et qu'il n'y a simplement même pas 10 personnes qui peuvent sauver la Terre, mais même pas 10 personnes. Et que si ces 10 personnes ne prennent pas la décision de nous sauver à temps, c'est fini. Le pape, pendant la Deuxième Guerre mondiale, s'est trompé. Probablement qu'il sera sanctifié parce que c'était un homme humainement magnifique. Ce n'était pas un homme politique. Et son parcours est un parcours qu'on n'aurait absolument pas suivi Jean XXIII s'il avait été à sa place. Jean XXIII se serait sacrifié. Jean XXIII aurait dénoncé le nazisme. Jean XXIII n'aurait jamais laissé faire ce que ce pape a cru, maladroitement politiquement, devoir faire. Alors l'homme est à sanctifier, mais le pape politiquement, non. Que ça nous serve d'exemple, eh bien je pense que le pape François ne laisserait pas faire. Ça tient à ça. Si le pape en 1938 et 39 avait réagi, peut-être les choses ne se seraient pas passées de cette façon-là. En France, il y avait un archevêque de Paris qui n'a pas levé le petit doigt. Je pense vraiment que ça dépend de 10 personnes, le monde. Pas plus.
Est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, il n'y a plus de grand homme hein?
Oui. En tout cas, ce qui est à remarquer, c'est qu'il y a peut-être des grands hommes, mais pour l'instant, ils n'ont pas compris le besoin de réagir. Ce qu'il y a d'incroyable dans l'histoire du XXe siècle, c'est que ceux qui se sont révélés les grands hommes étaient au départ des perdants. De Gaulle, pendant la guerre 14-18, demande l'aviation, on le fout à la porte, et sa carrière est finie, totalement finie. Plus personne ne croit en lui. C'est fini, De Gaulle. La carrière de Winston Churchill, il est à l'amirauté, c'est la guerre 14-18, il commet une erreur à la bataille des Dardanelles, les Turcs massacrent les Français et les Anglais, la carrière de Churchill est finie. Tout le monde est persuadé que et De Gaulle et Churchill sont finis, et ils vont revenir, et non seulement ils vont revenir, mais tous les deux vont être des héros de la guerre, et tous les deux vont se faire éjecter après la guerre. Incroyable. Churchill par un vote à cause d'une taxe où on l'enlève, et De Gaulle pour des problèmes de gouvernement, et il s'en va. C'est incroyable. Absolument incroyable. Donc peut-être que aujourd'hui la route des grands hommes du XXIe siècle, elle passe aussi par un rejet. Alors peut-être que ce sont dans les hommes qui justement ont été rejetés et qui ont acquis une dureté de caractère, qu'il y a peut-être ceux qui demain sauveront le monde. Albert Camus, justement, a été quelqu'un qui a été rejeté par la vie au moment où il pouvait faire sa carrière de théâtre quand il était jeune. La guerre se déclare, c'est fini. Au moment où il pense avoir le bonheur, il a la tuberculose depuis son enfance et il ne peut pas s'en sortir. Au moment où il croit la réconciliation entre la France et l'Algérie, tout s'écroule et c'est la guerre d'Algérie. Ça n'a pas arrêté, quoi. Il a toujours été obligé de se battre. Et c'est probablement dans cette force incroyable qu'il a acquise, qu'il a forgé un caractère d'acier, et il n'y avait que la mort pour pouvoir le faucher.
Et vous-même, alors, dans l'histoire, vous vous situez où? Dans l'histoire du spectacle, du théâtre, du cinéma, même?
Il faudra attendre que je sois mort pour qu'on puisse me situer quelque part, mais ce qui m'a fait plaisir, c'est que dans le dictionnaire Larousse, on mette à mon nom que j'ai essayé de faire en sorte de moderniser les grands textes classiques pour montrer leur modernité d'aujourd'hui. Alors, je pense que c'est bien d'avoir consacré sa vie au moins à montrer que Molière, Musset, Beaumarchais, les autres étaient des auteurs d'aujourd'hui et pas d'hier. Un peu comme la grande musique a cette chance avec Beethoven, Mozart, Mahler et les autres d'être toujours réinventé. Et le théâtre aussi, il faut le réinventer. C'est pas un musée Grévin du théâtre qu'il faut faire. On n'a pas à jouer ni même à penser les œuvres comme nos ancêtres le faisaient. Il faut tout révolutionner. Une pièce de théâtre, c'est comme une ville. Elle se modernise, elle change, elle évolue. et la mentalité même de la pièce évolue. Je pense que là, au moins, j'aurais fait un travail un peu moderne, un peu spécial, qui servira peut-être à ceux qui nous suivront.
Bon, tu m'as posé une question sur le PSG, non, rien du tout.
J'ai une question légère, on peut ?
Oui, bien évidemment.
Vous connaissez la région ? Vous connaissez le Diwa ? C'est la première fois que vous venez ? Question un petit peu...
Non, c'est pas la première fois que je viens. Mais c'était il y a si longtemps, c'était pendant les tournées. Je parlais, mais pas seulement ici, quoi, mais...
Vous connaissiez déjà ce théâtre ? Vous avez vu ?
Non, jamais.
On est vraiment dans la campagne, ici,
oui,
dans la montagne,
oui.
Il y a un théâtre.
Oui, mais c'est extraordinaire, d'autant plus que la programmation est extraordinaire. Je l'ai lu de A à Z, je parlais de Daniel. D'ailleurs, pourquoi elle s'appelle Daniel ? D-A-N-I-E-2-L. Tu vas voir, c'est quelque chose.
Voilà.
C'est une danseuse.
Ah, c'est une danseuse.
Elle est formidable.
Je l'ai vue.
Elle est bien, ah, cette fille.
Super.
Ah oui. Donc, non, il y a un sacré programme. Il y a une Nuit des Rois formidable aussi. Enfin,
Parole
vraiment.
De David, grâce justement au moyen de la scène, du label Seine-Rhône-Alpes,
oui.
A pu concocter une programmation. Il a choisi deux axes. La question du genre et l'engagement. L'engagement donc avec Camus et
oui,
d'autres.
Oui.
Et la question du genre. Voilà. Donc, Camus, à ce moment-là, il aurait, qu'est-ce qu'il aurait fait face à la question du genre, qui est une question actuelle, qui est posée. Il aurait réagi comment ?
Très violemment. Il n'aurait rien laissé passer. Il n'aurait pas toléré. Et comme en plus les médias aujourd'hui sont beaucoup plus importants et libres, entre guillemets, ça n'empêche pas qu'il y ait autant de manipulation, mais au moins tout peut être dit. Donc je pense que la voix de Camus se serait fait entendre. D'ailleurs, le truc de 52 minutes, là, le court-métrage qu'on projette aussi à l'occasion, il est formidable. Très intéressant. Vraiment, je les félicite. Hein. C'est pas n'importe quoi, hein, ce programme.
C'est un choix de votre part de faire une petite salle dans un petit endroit ?
Avec Sea Art. Sea, ça veut dire mer, hein, M-E-R. Sea Art, l'art de la mer. Voilà tout ce qu'il a trouvé, le boss. Mais avec Sea Art, on va dans des grands lieux, dans des petits, dans des moyens, partout. L'autre fois, on était à l'opéra de Clermont-Ferrand, la fois d'avant. C'est vraiment, je peux faire comme ça. Je prends mes jours de relâche le lundi pour faire ça. J'en fais une quinzaine, une vingtaine par an sur Camus. Là, et puis après, ça sera sur autre chose. Mais je pense important de... Si simplement, en fait, j'avais tourné avec un metteur en scène qui est formidable, c'est Robert Mazoyer, qui avait fait Au plaisir de Dieu de d'Ormesson, et il m'avait demandé de tourner Chateaubriand, et il m'avait raconté une histoire qui m'avait, enfin, deux histoires qui m'avaient beaucoup choqué. La première, c'est, il avait croisé quand il était jeune assistant Gérard Philippe au studio de Boulogne, et Philippe disait que plus personne voulait le faire travailler, qu'au cinéma, les gens s'intéressaient plus à lui, etc. Ça m'avait énormément choqué, mais je pense que c'est un peu comme tout d'un coup par rapport à Gassman, par rapport à d'autres. Bon. Et puis, il m'avait raconté l'histoire de Charles Dullin qui était allé comme ça dans des petites villes faire des conférences et que, à cause de lui, il y avait des grands noms du théâtre qui étaient, tu vois, qui n'auraient peut-être jamais fait théâtre. Et je sais pas, peut-être ce soir, il y a un nouveau Camus dans la salle. À savoir.
Est-ce que vous intervenez auprès des scolaires aussi ?
Absolument. Ben là, par exemple, demain, je fais une scolaire du joueur d'échecs. Il y a 400 jeunes. C'est bourré. Ils viennent. Et ce qui est justement intéressant dans les scolaires, c'est que tu t'aperçois que toutes les races, toutes les religions, toutes les couches sociales sont là. Ce qui n'est pas le fait des représentations normales.
Oui.
Il y a des communautés qui ne viennent jamais au théâtre. Les bras en tombent. Donc la responsabilité, elle n'est pas du côté des jeunes, elle est du côté des parents qui ne forcent pas leurs enfants à aller au théâtre ou à aller dans... Quand c'est des communautés de one-man show, il n'y a aucun problème. Aller dans... voir le tracé des acteurs de one-man show, tu t'aperçois qu'au contraire, eux, ils monopolisent leur communauté, mais pas au théâtre. Il y a un problème terrible au théâtre. Terrible, terrible. Dont la télévision est responsable à 100%.
Bon, une question un peu sur votre parcours, enfin sur votre carrière. Je crois que vous faites le Monsieur Loyal dans...
Ciné-musique, oui.
Ciné-musique.
Je le fais à partir de mercredi au Casino de Paris.
C'est l'histoire du cinéma que...
Oh, normalement, mais là, je vais être obligé de me contraindre parce que j'ai pas beaucoup de temps. En fait, l'orchestre de Philharmonique de Prague, c'est un orchestre sublime qui interprète les musiques de films. Derrière, il y a le grand écran avec les extraits de films. Et moi, on m'a demandé pour la France de choisir, de faire le programme, puisqu'ils en ont des centaines de musiques. Et donc, j'ai fait un programme et entre 4-5, tous les 4-5 j'interviens. Tous les 4-5 morceaux. Donc j'interviens 6-7 fois dans le spectacle, mais mon temps est limité. Je peux intervenir que 3 ou 4 minutes à chaque fois, parce que le spectacle dure 2 heures déjà. Je raconte un peu des histoires par rapport aux films qui passent.
Vous avez des projets pour le cinéma, vous ?
Oui. En 2016, je tournerai comme acteur et un autre film comme metteur en scène. L'acteur avec un très grand metteur en scène et le film que je tourne moi avec... un metteur en scène que je connais bien, parce que c'est moi. Mais pour le deuxième, mais pour le premier, c'est quelqu'un d'autre. Un très grand metteur en scène. Je ne peux pas le dire par supercision, mais c'est vraiment un très grand metteur en scène. Un des 5 plus grands metteurs en scène du monde. Et je suis très content de faire mon retour avec ce metteur en scène. Bon.
Merci Francis Huster.
Merci à vous. Merci beaucoup.
L'interview du jour.